La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Bienvenue dans la midinale de la Radio Piquet de ce 10 avril 2023. On n'en avait pas fait la semaine dernière. Voilà, c'est les grèves. On a le droit de faire la grève aussi en ce moment chez Radio Piquet. Mais là, ce coup-ci, on est là. On est nombreux autour de la table. Malheureusement, pas nombreuses, mais nombreux. Donc, on va avoir salut Pedro à la technique aujourd'hui.
Salut.
Il y a Asgard qui est de retour parmi nous derrière les micros.
Salut.
Kevin qui se finit de se préparer.
Salut.
Et Nico qui est déjà tout à fait attentif. Prêt à démarrer. Et moi-même, Seb, qui ne vais rien faire, à part peut-être un peu d'animation aujourd'hui. Voilà. Donc, première partie de cette midinale, habituellement revue de presse. Je sens que Nico est prêt, là, à démarrer. Il voulait nous parler des retraites, la réforme de la retraite.
Ouais, hein.
Je ne sais pas de quel point sur la retraite, mais il y a toujours de quoi parler
encore.
C'est
pour défendre la réforme.
Eh bien, défendons la réforme. Défendons la réforme.
Non, mais il faut choisir son camp. Hein. Non, mais juste, c'est toujours d'actualité, la lutte contre cette putain de réforme. Moi, j'ai lu, il y a un dossier dans Le Monde Diplo du mois d'avril là-dessus. Et en fait, j'avais juste envie de commencer par vous lire des petites brèves par les médias, on va dire, dominants au service du capital.
Ah.
Parce que dans le dossier du Monde Diplomatique, il cite, par exemple, il cite un truc du Figaro. Voilà, ouvrez les guillemets. C'était suite aux manifestations du 17 mars. Voilà le compte-rendu du Figaro. Vous êtes prêts ?
Prêt.
Une chaussée nettoyée dans le 2e arrondissement de Paris, des commerçants sous le choc. Dans la rue des Petits Champs, 2e arrondissement, proche des Tuileries. La chaussée a été nettoyée après les violences de la veille, mais les commerçants sont encore choqués. Ils avaient renversé toutes les poubelles, c'était impressionnant, témoigne une buraliste. À quelques rues de là, la vitrine d'un Monoprix a été brisée. Voilà, pour les médias dominants, c'est le chaos là, qui s'est passé dans les dernières manifestations. Regard biaisé, hein, on va juste insister sur ce soi-disant la casse et la violence, etc. Tout ça pour délégitimer un mouvement de fond, un mouvement social, une colère populaire assez majoritaire. Voilà. Autre petite citation que relève Le Monde Diplomatique par les excellents journalistes de CS News qui ont titré à un moment une de leurs missions « Doit-on craindre le retour du communisme ?»
Alors, c'est news et journalistes, c'est pas possible.
Oui, bah bien sûr.
Il faut dire les éditorialistes ou les mange-merdes de CNews. Voilà.
Tu as bien raison. C'était une boutade hein, quand je disais journaliste. Voilà, on continue avec un autre truc qui relève de l'Opinion. Alors, l'Opinion, je sais pas c'est quoi comme journal. Je pense que c'est plutôt la voix des patrons.
Ouais, c'est un journal de droite.
Voilà. Alors, eux qui, voilà, regardez ce qu'ils racontent sur la France insoumise. La France insoumise, qui ne sont pas forcément des copains, mais bon, bref, qui sont l'opposition, on va dire, de gauche, pour le dire comme ça. Voilà ce que dit l'Opinion. Le sabotage démocratique permanent opéré par la France insoumise, ce n'est pas du folklore trotskiste, ni une nostalgie jacobine désuète. C'est un vrai travail de sape, méthodique, systématique, idéologique. Il faut prendre au sérieux la manière dont la France insoumise, avec elle une partie complice de la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, sabote nos institutions. Pour la gauche radicale, la fatigue démocratique et l'impopulaire réforme des retraites sont l'occasion de tester grandeur nature cette insurrection citoyenne rêvée par Jean-Luc Mélenchon. Son programme, le chaos. Sa politique, la terreur.
C'est ouf, hein ?
Bah, quelque part, ils sont non, dans, sur pas... une autre réalité, ces gens-là. Mais...
Non, c'est pas ouf. Ça fait 2 semaines qu'ils ont opéré un virage, le gouvernement, avec une droitisation ultra sévère de leur discours.
Tu dis 2 semaines, moi j'ai l'impression que ça fait 30-40 ans que la droitisation du monde politique a lieu.
Ouais, mais là je trouve
que. Et la rhétorique de la terreur, elle n'est pas neuve, je veux dire. C'est une vieille rhétorique des gouvernements et de leurs complices dans les médias ou dans les universités, etc. Inventer un ennemi, quoi, l'ennemi intérieur, etc. qui viendrait saper les institutions, c'est vieux comme Mathusalem. Voilà. Ça permet de simplifier les choses, et puis de ne pas parler vraiment des causes sociales, politiques, qui sont vraiment derrière tout le mécontentement populaire. Quoi. Je veux dire, hop, dénigrer ça de manière super simpliste, super stigmatisante, c'est bon, bref, c'est une méthode classique, quoi.
Ouais, je suis en phase, mais j'ai quand même trouvé, tu vois, qu'il y avait, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, là, c'est la... après Sainte-Soline, en fait, moi j'ai trouvé qu'il y a eu une montée en puissance, tu vois, du discours de ouf qu'on voit dans tous les médias dominants, quand tu regardes un peu des extraits de BFM ou CNews ou tous les endroits où ces gros cons du gouvernement, ils interviennent, enfin, tu vois, enfin... Je ne sais pas si quelqu'un a regardé le compte-rendu de la commission d'enquête qu'il y a eu là sur Darmanin suite à Sainte-Soline. Là, moi, je me la suis cogné. Enfin, quand tu vois le discours de Darmanin sur la France insoumise et tout ça, la Ligue des droits de l'homme, on a quand même franchi une étape encore. Tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore une étape de franchie. Quoi. Il y avait déjà une diabolisation de la France insoumise. Mais en parallèle, si tu veux, moi, j'ai un collègue qui m'a parlé de ça la semaine dernière. Il m'a dit, bah, tu prends le... Enfin, si les gens ils prenaient le programme des présidentielles de Mitterrand en 81... Et le programme de Mélenchon, là, aux dernières élections présidentielles, bah, le programme de Mitterrand, il était bien plus extrémiste de gauche, limite, dans certains trucs, que celui de Mélenchon maintenant, quoi. Donc, bon, on a la mémoire courte, comme d'hab, quoi.
Oui, et puis la rhétorique du terrorisme intellectuel, c'est une vieille rhétorique d'extrême droite. Et le fait qu'elle soit réactivée, là, dans les discours par Darmanin, c'est pas pour rien, quoi. Là, le billet de l'opinion, il était plus sur... sur le côté robespierriste derrière l'insurrection, vous aurez Robespierre, quoi. Enfin, mais bon, on est toujours dans cette logique de la peur, quoi. Enfin, c'est ou le parti de l'ordre ou le chaos, quoi. Enfin, une vieille rhétorique qui avait joué à fond en 68, enfin qui est tout le temps à l'œuvre et qui joue toujours à fond dans la condamnation des violences en manifestation, ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est
peut-être que s'il y a une nouveauté du côté, on va dire, discours et attitude du gouvernement et on va dire de la présidence Macron, c'est dans une radicalité qui est soi-disant au service du bien-être général pour des questions économiques. Parce qu'il s'appuie sans arrêt sur ça. Il faut faire des économies, c'est une question budgétaire, c'est quoi, c'est une question technique, nanana. Au nom de la technique, en fait, on en vient à avoir une attitude autoritaire, hein, clairement très très autoritaire sur tous les plans. C'est peut-être ça la nouveauté, j'en sais rien. Je sais pas, c'est une hypothèse que je fais en ayant lu des textes sur le néolibéralisme. Voilà, une nouvelle phase du capitalisme qui va s'appuyer sur le côté technique des mesures qui seraient nécessaires pour des raisons techniques, pour des raisons purement, quoi, comme si l'économie était complètement à part du politique et du social. Et pour ces raisons-là, eh ben voilà, toute contestation de mesures prises serait complètement déjà délégitimée.
Bon. Oui, c'est dans le discours dominant, de toute façon. Puisque, enfin, quand t'as un ministre de l'Intérieur qui te dit qu'aller faire des manifestations spontanées, c'est illégal, quand tu vois les systèmes de NAS, enfin, qu'on a déjà parlé à tout ça, en fait, de toute façon, tu vois bien que le seul truc qui leur reste maintenant pour légitimer ce qu'ils sont en train de faire, c'est la violence. Donc, bon, voilà.
Oui, et puis pour le coup, on n'a pas l'impression qu'ils sont très imaginatifs. Hein.
Non.
Ouais, ça veut dire, on recycle les vieilles techniques qui sont celles de la répression et on ne voit pas grand-chose poindre. À côté, De Gaulle et son petit voyage à Baden-Baden en allant voir Massu avaient au moins une certaine inventivité. Quoi. Enfin, là, on se demande qui est-ce qu'il va trouver pour remplacer Massu. Quoi. Enfin...
Je continue avec, parce qu'il y a une autre petite brève du monde diplomatique à la suite là, de la citation de l'opinion. Il continue en disant ça. Donc là, c'est le journaliste du monde diplo hein, qui continue. Donc, en attendant le retour du communisme et l'instauration de la terreur mélenchonienne, les actionnaires des grandes entreprises mondiales ont récolté en 2022 plus de 1500 milliards d'euros de dividendes, soit plus que la richesse produite au cours de la même année par l'Espagne. Selon les économistes Isabella Weber et Evan Wassner, le taux de profit des entreprises américaines a battu un record datant de 1945, en 2022. En France, les propriétaires ont touché plus de 80 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, soit 3% du produit intérieur brut. C'est 30 fois le déficit des caisses de retraite attendu cette année. Et 4,5 fois le montant des économies, entre guillemets, escomptées dans la version initiale de la réforme. Donc tout ça pour dire que la situation quand même décrite par ces putains de médias et puis par la communication des gouvernements, c'est complètement du pipeau. Ouais, c'est la logique de la peur, quoi, comme on a dit, quoi. Et en fait, pendant ce temps-là, les actionnaires, le capital, se portent très bien. Il n'y a pas de problème. Et si on voulait faire des économies, si on était dans la logique là, de leur merde, austérité budgétaire, etc., il faut faire des économies, nanana, il y a des déficits, blablabla, bon, on voit très bien qu'en fait, on pourrait largement les faire. Il n'y a pas de déficit. Le déficit et la dette des services publics, c'est un mythe, c'est créé par les gouvernements et les multinationales pour qui le gouvernement travaille, pour faire pression sur non seulement les classes populaires, etc., mais pour faire pression sur toute la société par la peur du désastre.
Bien. Autre chose à dire sur la retraite, sur le mouvement contre la réforme en cours
Ouais, moi j'avais mon article là, de ce que j'avais pas pu trop exploiter là, la semaine dernière, la semaine d'avant, là, qui est tombé un peu au hasard là, où en fait, donc c'est un article du 23 mars qu'il y a eu dans l'Humanité, donc ça date un peu, hein, désolé. Et en gros, ces gens-là, ils ont reçu. En fait, il y a le ministère du Travail qui a envoyé des directives à toutes les sociétés de France pour en fait mener la chasse aux syndicalistes grévistes. Alors, pour rappeler un peu aux Français et aux Françaises. Les gens qui ont des mandats syndicaux dans les sociétés, on appelle ça des emplois protégés. En fait, ils ne sont pas licenciables pour éviter justement les pressions du patron et tout ça. On ne peut pas les licencier facilement, en fait, normalement, les mandats syndicaux. Et donc, le ministère du Travail, en pleine réforme des retraites, et comme il voit qu'il y a une opposition continue, hein, de toute façon, on n'a pas baissé, on est toujours à 70% d'opinions défavorables dans l'opinion générale. 90% des travailleurs sont toujours opposés à cette putain de réforme. Donc ça fait 3 mois, hein, comme tu disais Nico, qui nous bassinent avec des termes ultra techniques, machin, tout ça. Tout le monde a su que leur chiffre qu'ils faisaient, c'est du pipeau. Et là, qu'est-ce qu'il fait Dussop, donc, qui d'ailleurs apparemment serait aussi sur un siège éjectable. Dussop, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie une circulaire vers les entreprises en expliquant comment, en fait, potentiellement attaquer les syndicalistes qui font des grèves, quoi. Voilà, donc... Oui. C'est quand même un truc de ouf, en fait. Ils ont envoyé toute une série de jurisprudences, des événements qui ont déjà été jugés, pour faciliter les licenciements des syndicalistes. Donc, par exemple, tu vois, je te prends un exemple. Il faut que je les retrouve. Excusez-moi. Voilà. En gros, donc, ils vont dire, par exemple, tout ce qui est opposition au droit de circulation. Tu vois, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un blocage, normalement, tu es censé laisser circuler les gens. Ça a été jugé. Donc la cour, je ne sais plus quelle cour c'était qui a mis ça, donc c'est jugé illégal. Donc en fait, si tu es syndicaliste et que tu t'opposes par exemple à la libre circulation axée dans une entreprise, donc les blocages, hein, tu peux être condamné et tu peux être licencié. Donc ça, le ministère du Travail, qui est censé normalement travailler avec les syndicalistes, il envoie des petites circulaires à toutes les boîtes de France en disant oh, « vous avez des syndicalistes un peu chiants ou un peu véhéments, on va dire. Eh ben, on va voilà toute la liste. » qui vont vous permettre de vous aider à les licencier et contre lesquels, en plus, ils n'auront aucun moyen de se retourner ni au prud'homme, ni au tribunal, puisque c'est des jurisprudences. Donc voilà, ça montre un peu, finalement, Moi, je trouve que ça fait le lien, parce que comme on voit que là, en ce moment, la contestation sociale, elle grimpe, il y a quand même des gens, tu vois, enfin, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait l'intersyndicale et les syndicats, mais on voit que finalement, bon, ils ont à peu près joué leur rôle. Ça dépend des cas, hein, on n'est pas tous d'accord. Mais les gens, finalement, se sont rendus compte que les syndicats, ils existaient encore. Et là, finalement, comme les syndicats sont contre le gouvernement, qu'ils vont pas à la table des négos, et qu'on commence un peu, comme Nico en parlait, là, d'instaurer une terreur un peu psychologique et une terreur dans les médias, et ben en plus, derrière, le ministère du Travail, lui, il instaure une terreur vers les syndicats et les syndicalistes pour les empêcher de manifester ou de faire des grèves dures, en fait, de blocage. Donc voilà, un truc bien dégueulasse du gouvernement. Et voilà. Et bon, après, à la fin de l'article, il t'explique, bien sûr, que Le ministère du Travail n'a pas fait de commentaires sur cette circulaire envoyée à toutes les entreprises. Donc moi, c'était le petit lien que j'avais, tu vois, comme ça, on mettra le lien, là, c'est... l'article est intéressant.
Moi, je peux rajouter deux petits trucs sur ce sujet-là, et avant de passer à autre chose. Juste par rapport au Conseil constitutionnel, puisque là, la réforme va passer devant le Conseil constitutionnel, des sages, comme on dit, là, pour voir si elle est conforme ou pas à la Constitution, et qu'est-ce que vont faire ces sages. Bon, juste rappelons, il y a un excellent article là dans Le Monde Diplo sur le Conseil constitutionnel. C'est quoi ce truc? Qui en fait partie? Quelles décisions il prend? En fait, rappelons juste que le Conseil constitutionnel, c'est quand même une instance très très politique. Par exemple, il y a Juppé et Fabius, qui est le président actuel. Donc, il ne faut rien attendre de ce Conseil constitutionnel. Hein. Croire qu'il va retoquer la réforme ou qu'il va la débouter ou quoi que ce soit, c'est croire au Père Noël. Donc l'article revient sur le travail que fait ce Conseil constitutionnel depuis des années. En fait, à chaque fois, il va dans le sens des lois et des réformes du gouvernement. Voilà. Il y a une espèce de, comment dire, de va-et-vient entre les membres de ce Conseil constitutionnel sont d'anciens ministres ou d'anciens juges. De la haute administration. C'est une espèce de maison de retraite pour la fin de carrière des hommes et des femmes politiques. Bon, par exemple, Juppé et Fabius, dans leur carrière, ils ne se sont pas forcément montrés comme des gens qui luttent pour l'intérêt général. Au contraire, ils luttaient pour le capital. Et au sein du Conseil constitutionnel, ils vont continuer.
Bon, Juppé, il a passé 15 ans au Canada ou 10 ans, je ne sais même plus.
Voilà. Et un dernier petit truc, c'est y a un bouquin de Bernard Friot qui sortit un petit livre qui s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». C'est un petit livre à la dispute là qui vient de sortir. Je le conseille parce que non seulement il y a une critique des réformes néolibérales de la contre-révolution, comme il dit, capitaliste qui a eu lieu depuis 30-40 ans. Il explique pourquoi, en fait, il y a un acharnement sur les retraites depuis aussi 30-40 ans avec une succession de réformes qui essayent de casser ce système. Pourquoi ils n'attaquent pas la retraite? C'est très intéressant. Et il y a aussi, surtout, il y a des propositions offensives, vraiment révolutionnaires. Donc, en fait, voilà, ne pas être juste dans une position défensive à devoir défendre. Par exemple, là, peut-être que dans 5 ans, en fait, Le mouvement social, il défendra la retraite à 64 ans parce qu'il y aura une réforme qui veut la faire passer à 69 ans. Bon, bref, on est sur un terrain quand même de défense et on se fait avoir depuis des années. Et bien là, il y a une proposition offensive. Donc je vous invite à aller lire ça.
Ouais, après ce que tu disais sur le Conseil constitutionnel, moi je trouve que ça va quand même être intéressant. Quoi. Enfin, même s'il n'y a pas grand-chose à en attendre, je pense qu'ils vont être bien emmerdés. Quoi. Parce que légitimer le pouvoir en faisant passer cette réforme, même avec des petites corrections, ce genre de choses, ça va être très compliqué pour eux. Je veux dire, la Libye démocratique, la démocratie représentative, là, il va être très dur à sauver quand même. Ça va... Alors, ils vont pouvoir éventuellement rendre légale cette loi, comme le 49.3 est légal. Enfin bref, il n'y aura pas de problèmes juridiques, éventuellement avec l'intervention du 49.3, mais ça rendra absolument pas la réforme légitime. Et en gros, le Conseil constitutionnel ne peut pas, en effet, rejeter cette réforme en bloc, parce que ce serait une véritable crise de la cinquième, et il n'y a aucun lieu de penser qu'ils vont faire ça, quoi. Enfin, ce serait aberrant, malgré tout, pour sauver l'institution politique avec ce type de passage très autoritaire, ça va être particulièrement compliqué, je pense.
À suivre, on verra bien. Après, le Conseil constitutionnel, il a tellement fait passer des choses ces dernières années. Tu vois, par exemple, si on parle juste des lois sécuritaires, des états d'urgence exceptionnels ou permanents, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Du coup, il est inscrit dans la loi des dispositifs qui restreignent les libertés en tout genre depuis des années, et ça passe crème.
Ah, mais comme cette réforme passera, il n'y a aucun doute. Enfin, je n'étais pas en train de contester ce que tu disais. Je dis, l'alibi politique, là, il va être...
Oui, au pire, ils vont retoquer quelques...
Ils vont faire un semblant de travail juridique pour justifier qu'ils sont les sages, entre guillemets, du Conseil constitutionnel.
En fait, ce n'est pas mais ça. Bon. C'est que ce qu'attendent les gens du Conseil constitutionnel, au-delà du fait qu'ils vont censurer des articles et tout ça, c'est qu'en fait, la loi des retraites, elle a été passée dans un truc de financement de la Sécu.
Ouais.
Donc normalement, en fait, le Conseil constitutionnel, son rôle, ça va être de dire tout ce qui n'est pas du financement dans cette loi, ça dégage. Donc si tu veux, la suppression des régimes spéciaux, la suppression de...
Mais j'ai très bien compris le truc, mais en fait...
Mais après, derrière, c'est sûr que la loi, ils vont la passer, tu vois. Ils ne peuvent pas se positionner contre, sinon, comme il disait Asgard, ça va être une putain de crise. Enfin, ils sont déjà dans une putain de crise, de toute manière, puisque la contestation ne baisse pas, les gens, ils ne sont pas cons, ils commencent à se dire « mais putain, ils se foutent vraiment de notre gueule ». On a bien vu quand même comment ça s'est passé, les manifs spontanés. On voit les mensonges du gouvernement. Tous les médias, ils mentent. Enfin, je veux dire, t'as quand même un mec qui est ministre de l'Intérieur. Il ment comme ça sur un média avec des vidéos mises en parallèle où le mec, il te dit non, il n'y a pas eu de tir de LBD sur un quad. Et 30 secondes après, tu vois un mec tirer au LBD avec un quad. Je veux dire, il y a un moment, on en est où, quoi? C'est même plus une crise institutionnelle. C'est les mecs, en fait, ils en ont plus rien à branler. Ils sont en roue libre complète. Darmanin, ça fait 3 mois qu'il est en roue libre. Mais c'est impressionnant. Le ministre de la Justice, on n'entend pas. Mais bon, après, comme il est mis en examen, peut-être que pour l'instant, il ferme sa gueule. Dussopt, faut voir comment ça a été traité, quoi. Enfin, je veux dire... Et là, comme tu disais tout à l'heure, le seul truc qui leur reste, finalement, c'est de montrer du doigt, en fait, la France insoumise en faisant un ogre communiste qui va dévorer le capitalisme, alors que, putain, c'est pas du tout ça. Hein. La France insoumise, c'est pas des cocos, quoi, tu vois. Enfin, donc, c'est juste qu'en fait, ils ont complètement basculé le discours, et c'est ça qui est impressionnant, dans une droite dure, en fait. Et ils y vont tranquille, quoi. Enfin, je veux dire, pendant ce temps-là, toutes les sorties qu'il y a eu médiatiques là, ces 3 dernières semaines, t'entends pas Ciotti, par exemple, qui est quand même un mec de la droite ultra dure, dire « Putain, Darmanin, il va un peu loin, quoi. » Et le Front National, eux, ils se frottent les mains, parce que, putain, pendant ce temps-là, ils font rien et ils montent dans tous les sondages. C'est la magie, quoi. Donc, on est dans une drôle de situation, en fait. Ils sont tellement dos au mur. Enfin, allez quand même... Enfin, je veux dire, là, bon, après, le Conseil constitutionnel, il va faire ce qu'il veut, hein. Mais le dernier 49-3, allez oser dire dans les médias on fait un 49-3 parce qu'on n'est pas sûr de gagner, ça te montre déjà le niveau qu'ils ont de la démocratie représentative. C'est-à-dire que les mecs... le jeu de la démocratie, c'est justement ces jeux de vote et de pouvoir où il y a un moment, tu acceptes le vote. Et si le vote il va être contre toi, t'as perdu. Et puis voilà. Donc là, les mecs, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient se voter qu'ils font un putain de 49-3 qui met le feu partout. Et la seule réponse qu'ils ont à proposer à ça, c'est d'être ultra autoritaire et ultra dur. Voilà. Et de faire, on en avait parlé il y a 2 semaines, la dernière mininale, de faire par exemple 380 gardes à vue à Paris pour au final 6 condamnations. Quoi. Enfin, on est dans un monde, on se fait quand même retoquer par tous les pays d'Europe. Même les dictatures se foutent de la gueule de la France. Quoi. Putain, je veux dire, même Bachar al-Assad, il s'est foutu de la gueule de la France en disant la vache, vous êtes bien pour faire la politique et dire que chez nous c'est pas bien. Et là, regardez ce que vous faites à vos manifestants. Quoi. Enfin, putain, ça craint quand même. Quoi. Donc le Conseil constitutionnel, on est tous d'accord que ça va servir à rien. Ça va retoquer quelques articles, vraiment des trucs à la marge. La réforme, elle va passer en l'état. Mais par contre, là où je suis assez d'accord avec Asgard, c'est putain, qu'est-ce qui va rester les 4 prochaines années? Ça va être compliqué. Hein. Parce que là, ça fait qu'un an qu'il est là, l'autre.
C'est 6 déjà.
Oui, mais je te parle d'un an de nouveau mandat. Oui, oui. Où il nous a vendu la nouvelle méthode, la concertation, machin. Enfin, on en a discuté assez souvent ici. Il a quand même réussi à radicaliser des syndicats réformistes. Putain, comment tu fais ça, quoi? Quel gouvernement a déjà réussi à faire ça, quoi?
Ils savent même plus où signer, maintenant.
Non, mais c'est quand même un truc de ouf, quoi. Même Laurent Berger, qui était un mec qu'on aurait foutu ministre il y a 3 mois, maintenant, le mec, quand tu l'écoutes, c'est Che Guevara, quoi. Bref, j'exagère un peu, mais... mais quand tu l'écoutes, c'est hallucinant, quoi.
Bien.
Ouais.
Est-ce qu'on en reste là autour de pour ce sujet-là pour l'instant et on passe à quelque chose qui est en lien
Moi ça me fait une belle transition parce que vous avez parlé de l'état d'urgence et de la continuité de l'état d'urgence en fait. Il va y avoir un peu la même, enfin en tout cas c'est les analyses qui sont faites par rapport au test de vidéosurveillance automatisée. Donc ça c'est dans le cadre du projet de loi des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Donc ça s'est passé le 28 mars, Donc ça fait pas mal de temps, pas mal de midinales qu'on avait prévu de vous en parler, mais on n'a jamais pris trop le temps. On ne va pas vous en parler, en tout cas, on ne va pas reprendre le dossier d'analyse de la quadrature du net, qui fait une quarantaine de pages, mais qui est hyper intéressant. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est vraiment une analyse sur comment... Enfin, ce que c'est que la vidéosurveillance automatisée, comment est-ce que ça fonctionne, ce que ça engendre, en fait... Enfin, comment ça marche, qui l'utilise, quelles boîtes sont là-dedans, etc. Là, on va plutôt s'attaquer à un article qui est paru, qui a été co-rédigé par la Quadrature et le site de surveillance des multinationales, l'Observatoire des multinationales, dont on avait déjà parlé au moment de quand on avait parlé de Primark. Donc ce site-là, je le redis, hein, il est hyper intéressant. Je crois que c'est multinational.org. Voilà. Et donc qui signe un article plutôt sur comment est-ce que cette loi est passée et pourquoi est-ce que ça a été hyper facile de la faire passer. Et l'article s'appelle « Vidéosurveillance biométrique derrière l'adoption du texte, la victoire d'un lobby ». Donc je rappelle, co-rédigé, co-publié par l'association La Quadrature du Net et l'Observatoire des multinationales. Donc la semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Donc la semaine dernière, en fait, c'est un article qui date du 5 avril, donc on parle bien du 28 mars. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Déjà voté par le Sénat en janvier dernier, ce texte contient un article 7 qui autorise l'expérimentation de la vidéosurveillance automatisée sur le territoire français. La vidéosurveillance automatisée, qu'on appelle VSA, est un outil de surveillance biométrique qui, à travers des algorithmes couplés aux caméras de surveillance, détecte, analyse et classe nos corps et comportements dans l'espace public pour alerter les services de police et faciliter le suivi des personnes. L'article, il est assez bien foutu et il part en fait sur un gros fait et c'est de là que découle en fait toute cette tendance à la surveillance généralisée. Et c'est là où on peut relier ça aussi à la lutte anticapitaliste. Pourquoi est-ce que ça marche et pourquoi est-ce qu'on va à fond dedans? Enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que ça attire des grosses entreprises? Tout simplement parce que c'est un secteur qui connaît une croissance affolante. En fait, on est à plus de 10% de chiffre d'affaires par année sur ce truc-là. Au niveau mondial, la vidéosurveillance classique, en fait, elle est chiffrée à quelque 51 milliards, je crois... 52 milliards en 2020, et d'après les prévisions, alors ça c'est pareil, on peut en reparler, ça devrait atteindre 90 milliards en 2026. Donc ça c'est selon le site, alors j'adore le nom du site, ça s'appelle Mordor Intelligence. Je ne sais pas si vous souvenez ce que c'est que Mordor. Voilà.
L'œil de Sauron.
Voilà, l'œil de Sauron. Et ce qui est rigolo, c'est que on va en reparler justement des lobbies et de la presse et des médias, à quel point en fait ils collaborent, enfin ils coopèrent en tout cas pour cette fuite en avant en fait. C'est-à-dire que plus tu vas annoncer des promesses de gains, c'est-à-dire en fait si tu investis, enfin voilà, c'est un secteur qui est porteur, donc en fait tu as intérêt à investir dedans, donc tout le monde s'y rue quoi. Et une fois que tout le monde y est, bah en fait il faut les vendre les produits, il faut réussir à se faire de la thune avec ça quoi. Donc c'est un peu ça. Donc Mordor Intelligence, à mon avis, c'est pas des copains à nous. Voilà, juste entre parenthèses. Et sur la vidéosurveillance automatisée, donc qui est une partie de la vidéosurveillance, en 2020, au niveau mondial, l'article indique qu'il y avait plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance de 7% par an. Donc voilà, on parle entre 10 et 7% par an suivant de quoi on parle. Donc ce qu'on disait, enfin ce que l'article montre en fait, c'est étant donné qu'il y a du fric à se faire, en fait il y a plein de multinationales qui se ruent dessus. Donc des multinationales qu'on connaît, mais il y a aussi des start-up qui sont mises en avant. Et l'article cite notamment la start-up 22 qui a levé, euh, qui a levé il y a quelques semaines 22 millions d'euros pour sa solution de surveillance automatisée auprès de BPI France. Elle cite aussi Thales, qui avait levé 18 millions d'euros pour sa solution de Safe City à Nice et à La Défense. Selon le site Technopolis, donc ça c'est entre parenthèses, hein, l'entreprise 22 est partenaire de Thales, Idemia, on va en reparler, Genetec, SNCF, Safran, Enedis, etc., etc. Et affirme être capable de vendre entre autres des outils de gestion de foule, maraudage, analyse comportementale, détection de présence suspecte. Donc ça, c'est un peu ce qui est mis en avant sur le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que il y a le contre-argument, donc quand les gens commencent à se dire au niveau des libertés, c'est un petit peu limite, le contre-argument du gouvernement, c'est de dire attention, on ne va pas avoir recours à la reconnaissance faciale. Donc là, pour l'instant, c'est que de l'analyse, entre guillemets, comportementale.
C'est la première étape. Quoi.
Ouais. C'est une première étape, et après, tu sais jamais où tu t'arrêtes, parce qu'en fait... ce qu'il faut voir, c'est que ces startups-là, même si elles promettent ça, en tout cas pour le projet de Paris, ça ne les empêche pas de développer des choses qui... des produits, justement, qui mettent à disposition d'autres États ou d'autres organisations qui font de la reconnaissance faciale. Donc voilà. Une fois qu'on a le marché, on peut très bien se dire que ça glisse assez, assez rapidement. Et notamment, je crois que c'est 22... qui se vantent de pouvoir retrouver justement des personnes disparues, qui ont disparu volontairement, ou alors des personnes qui sont recherchées par la police, en fait.
Tu veux dire qu'on va retrouver Xavier Dupont-Ligonnès ?
Peut-être.
Il n'était pas en Écosse ?
Non, il était à l'aéroport de Londres, je crois, il y a quelques années. Et on s'en fout. Donc voilà, il faut voir le côté. Donc en fait, il détaille bien les multinationales. Donc il y a les startups dont on a parlé. Donc là c'est pareil, c'est à fond, c'est la Startup Nation de Macron. Et l'article mentionne aussi les associations. Alors c'est pas des associations caritatives. C'est le fait que tous ces acteurs-là ont une grosse tendance, mais comme dans n'importe quel secteur, à se regrouper. En association, donc ils en citent certaines, le JICAT, l'Alliance pour la confiance numérique, la Secure Identity Alliance, le JICREF, le FIEC, l'AN2V, l'Association nationale de vidéoprotection. Donc voilà, c'est un peu, ça participe, c'est leur outil de lobbying en fait, c'est-à-dire que On ne va pas demander directement, on ne va pas envoyer un responsable de Thales ou de Safran directement auprès des députés ou des sénateurs. C'est qu'on va, en fait, on va se regrouper en association, et puis les membres de l'association vont finir travailler discrètement auprès des élus, quoi. Donc il parle de tout ça, c'est assez bien foutu, il donne quelques exemples. Il parle aussi le titre s'appelle « Le lobby de l'intérieur ». En fait, c'est que globalement, même si ces lobbies de multinationales, de start-up existent, en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'ils montrent qu'il y a quand même pas mal d'élus qui sont mouillés avec ce milieu-là. Notamment, il cite Christian Estrosi, qui est vraiment à la pointe du truc. Et ils font toute une liste aussi de personnes qui, dans leur rapport, en fait, étaient assez, assez complaisants justement avec la VSA, donc la vidéosurveillance automatisée. Et dans une partie d'article un peu plus loin, il parle de pantouflage. Donc il cite notamment... Notamment Isabelle Caputo, qui a travaillé plusieurs années avant l'Assemblée nationale. Donc maintenant, elle est directrice des relations institutionnelles chez Thales. Olivier Andriès, le directeur général de Safran, qui a commencé sa carrière dans la fonction publique au ministère de l'Industrie, puis à la direction du Trésor, avant de devenir conseiller pour l'industrie dans le cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Toujours chez Safran, le directeur des affaires publiques Fabien Menant a quant à lui occupé des postes à la mairie de Paris, au ministère des Affaires étrangères, puis de la Défense. Donc il y a plusieurs cas, comme ça. Et tout ça pour... et aussi, enfin, il parle énorme de l'opacité en fait des rendez-vous. Normalement, t'es censé déclarer ce type de rendez-vous à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et en fait, en gros, ils disent, nous, on n'a aucun détail sur. Ils disent, bah, telle personne de chez Safran ou telle personne de chez Thales a rencontré un ministre ou un directeur de cab ou une personne du cabinet, mais ils ne citent jamais la personne. Et en gros, ils disent en 2022. Donc, t'as pas la personne qui est concernée avec qui il y a eu le rendez-vous, t'as pas la date exacte, t'as pas la durée du truc, t'as pas la teneur des échanges. Enfin, tout ça, c'est aussi... c'est bien fermé par le côté secret. Tout ce qui touche à la défense, en fait, on peut supposer que c'est derrière ça qui se cache. Quoi. Et il n'épargne pas non plus les sénateurs, puisque dans les sénateurs, c'est alors, je ne sais plus... Donc les sénateurs, en fait, ils racontent un peu comment ils sont invités pendant une semaine. En fait, t'as une mission... tu as une mission d'étude et en gros, ils sont invités chez des industriels quoi, pour montrer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça marche bien. Et ce que relève l'article, c'est que en fait, jamais les sénateurs n'ont entendu d'associations justement de respect des droits de l'homme ou plus des associations qui sont sur ces questions-là du numérique, type la quadrature du net. Quoi. Donc voilà. Donc en fait, il conclut en disant que c'est un peu logique qu'il y ait eu une adoption, puisque de toute façon le projet était vendu d'avance depuis des années par des députés et sénateurs qui étaient déjà conquis ou qu'on a conquis. Enfin, le travail de lobbying a bien été fait, quoi. Et dedans, dans ces sénateurs-là, dans ces députés-là, il y a notre camarade. Larsonneur, qui, en fait, là, je suis allé revoir là, sur sa fiche de l'Assemblée nationale. En fait, il a participé à 6 votes. Là, en un mois et demi, il a participé à 6 votes sur 310 à l'Assemblée nationale, et dont celui-là où il est pour l'ensemble de la loi.
6 votes sur 310.
Ouais.
Fait bon, bien son taf, celui-là.
Il ouais. négocie sa place chez Thales en fin de mandat.
Et il est voilà. payé 6 votes sur 310, ça fait quand même pas cher.
Et bah, ça fait combien de pourcentage alors, de son travail alors les mauvaises langues vont me dire ouais, mais t'as pris exprès une période où il n'était pas là, je sais pas, il était peut-être malade ou je sais pas quoi.
Je sais pas, il est élu ouais. pour aller voter, non, soi-disant, à l'Assemblée. Au moins, ce truc-là, quoi. Enfin,
ouais, ouais.
Enfin, je sais pas, ouais.
Donc il y avait ça, et puis bah, je sais pas, Asgard, t'avais un truc. Vous voyez, te préparer.
Non, parce que c'est un peu, ouais. Non, ça me faisait juste penser que ce lobby, c'est une vieille tradition bretonne. Hein. Je veux dire, Idemia, c'est une boîte qui est à Vitré. Okay. Et un des grands soutiens de ces technologies-là, c'était l'ancien ministre de la Défense, Le Drian. Qui d'ailleurs avait, je ne sais pas dans quelle mesure c'était vrai ou faux, mais il y avait tout un incident diplomatique avec le Mali, parce que son fils, donc, qui était responsable dans cette entreprise, avait vendu des passeports biométriques au Mali. Et il y avait eu le Mali, au moment du conflit pour le départ de la France, avait dénoncé des prises d'intérêt justement du fils Le Drian, et ça avait fait tout un ramdam. Mais Idemia, de toute façon, c'est, je ne sais plus, il y en a deux des boîtes. Alors je crois qu'il y avait un autre nom de Thales, mais c'est peut-être un sous-groupe dans ces histoires de passeports biométriques. Mais c'est un des grands pourvoyeurs en Afrique de ces technologies-là. Quoi. Enfin, la France, pour légitimer les dictatures... pour vendre des modèles démocratiques viables, vend ces technologies-là en disant que c'est un outil démocratique. Bon, alors après, dans les faits, ça fonctionne plus ou moins mal, quoi. En tout cas, ça ne permet pas du tout d'empêcher les fraudes électorales. Mais c'est un énorme marché de la France-Afrique que la vente de ces technologies informatiques. Et c'était Le Drian, me semble-t-il aussi, enfin non, je suis sûr que c'était Le Drian, qui était un grand promoteur justement de ces technologies-là pour lutter contre le terrorisme au Sahel, qui voulait qu'il y ait des QR codes et des instruments biométriques qui soient exigés pour la distribution d'aide alimentaire, par exemple. Soi-disant pour éviter que les terroristes puissent manger.
Non, mais tu fais bien de parler de la France-Afrique, parce que moi, je rajouterais juste un petit truc. Toutes ces technologies de vidéosurveillance, biométrie, drones, etc., font partie d'une politique plus globale européenne concernant les flux migratoires. Et en Afrique, en Tunisie, en Libye et d'autres, quoi, la politique européenne est de faire ces pays-là les nouvelles frontières de l'Europe. Et là, ils vont non seulement utiliser tous les outils qu'on a dit là, ils vont les tester. Et tu l'as dit, Asghar, ça va légitimer après des régimes souvent durs et autoritaires où la torture est pratiquée. Hein. Donc voilà.
Et cette histoire de lutter contre les flux migratoires, c'était un des grands arguments qui était avancé. C'est-à-dire on a besoin de recenser les populations. Le passeport biométrique ou tous ces mécanismes d'identification biométrique nous permettent de traiter les flux migratoires en avant. Et c'est pour ça que la France est une grande promotrice de ces technologies-là, c'est-à-dire pour pouvoir ficher les flux migratoires africains avant même qu'ils débarquent en Europe. Et c'était un des instruments technologiques de lutte contre les gens qui veulent exercer leur droit à se déplacer librement.
Ouais. Et il y a un truc assez intéressant, quoi. Je sais pas comment le dire. C'est parce qu'en fait, là, il y a une logique hyper sécuritaire et hyper raciste d'un côté, dans les politiques mises en place. Et il y a une logique ultra capitaliste, puisque là, c'est un business, c'est un gros business derrière, hein, aussi, des outils technologiques. Et les deux se rencontrent. Bon, voilà, dans le monde dans lequel on vit.
Bon, pour compléter là sur cet article 7, la loi sur les Jeux Olympiques, donc l'article qui concerne la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, donc, tu parlais tout à l'heure que le gouvernement n'avait pas encore. Il se défendait du fait qu'il surveillait, qu'il utilisait la biométrie, des données biométriques, comme par exemple la reconnaissance faciale, qui est reconnue comme des données biométriques, mais il faut quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette VSA, dans cette technologie? On parlait vite fait, ça identifie, analyse et classe en permanence les corps, les attributs physiques, les gestes, les silhouettes, les démarches. Donc si ça, c'est pas des données biométriques, c'est quand même, voilà, on essaye de. Enfin, c'est avec tout ça. Et alors, avec des algorithmes, moi je serais curieux de voir comment ça fonctionne, tout ça, comment tu arrives à différencier les gens avec ce genre de trucs.
Eh ben, ouais.
C'est comme, tu vois, on pourrait en parler aussi, mais là, on va peut-être déborder un peu. Les fameuses nouvelles technologies là, qui ont été. Alors, est-ce que ça a commencé à Sainte-Soline, je sais pas, du traçage là? Avec les peintures, quoi.
Avec les peintures, c'est des. Je suis tombé sur l'article.
Je suis en train de chercher le terme, j'avais l'article.
Merde. Voilà. C'est des peintures UV.
Ouais, c'est des peintures UV qui se révèlent avec des lampes ultraviolets. Une nouvelle, ça s'appelle un produit de marquage codé, les PMC. Attention, c'est la nouvelle arme que déploie le gouvernement. Il y a quand même eu déjà des cas, donc ils disent qu'avec ça, c'est super, ils vont super bien pouvoir tracer les gens. Le but, c'est de vous tracer avec une couleur. Un truc que vous ne voyez pas, qui peut changer de couleur dans le temps. Donc, ils savent à quel moment ils ont utilisé telle ou telle couleur, comment elle évolue. Donc, soi-disant qu'avec ça, avec une lampe à UV derrière, ils peuvent savoir à quel moment vous étiez, à quel endroit, quoi. Et là, il y a quand même un journaliste qui travaille, entre autres, pour... alors, pour qui il travaillait? Je crois qu'il travaillait un peu pour Le Monde et France Télé, ce journaliste, qui a fini par faire de la garde... Le Monde et Radio France, pardon, qui a fini par faire de la garde à vue parce qu'ils ont trouvé des traces sur ses mains. Et cette technologie qui avait l'air soi-disant fiable, ils ont quand même avoué que en fait, ça met 5 minutes à sécher et qu'en fait, les traces qu'ils ont retrouvées sur ce journaliste pouvaient être dues à un transfert entre de quelqu'un qui aurait été marqué au préalable et que lui aurait pu toucher ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est super technologie.
Enfin, si tu te mets à toucher les terroristes, c'est que t'en es un moitié.
Après, je pense qu'on a lu le même article, il y avait une phrase qui était vachement affligeante, je crois, dans cet article. C'était l'OPJ qui disait à un moment, ils vont pas vous lâcher, c'est leur nouveau jouet.
Oui, c'est ça, leur nouveau joujou.
C'est
Bah, on pourra vous mettre l'article. Ça, c'est un article qu'on retrouve sur le site reporter.net qui se nomme Sainte-Soline, les autorités pissent les manifestants grâce à un produit invisible. Donc voilà, c'est l'État effectivement qu'on déploie et déploie et déploie tout un tas de nouvelles technologies qui sont pas du tout... enfin, ce que les tests montrent pas que ça marche à 100%, donc c'est vraiment en pleine expérimentation. Les JO arrivent vite et je serais curieux de voir ce qui va se passer quand ils vont utiliser ces trucs-là pendant les JO, quoi. Mais voilà. Bon, bref, tout est fait pour que on en voit encore de plus en plus en garde à vue pour te dégoûter d'aller en manifestation, pour te ficher un peu plus. De toute façon, on sera bientôt 50 millions de fichiers S en France, quoi. Donc walou.
Ça va être bien.
Ça va être bien. Bon, moi je sais qu'on a un rendez-vous qui est prévu autour de 13h en deuxième partie. Ce que je propose, c'est que pour qu'on déborde pas trop et que la personne puisse nous appeler, on puisse peut-être faire une petite pause musicale pour conclure cette première partie. Vous en dites quoi, messieurs?
On fait ça?
Ouais. Ouais,
on okay. Envoie la pause musicale proposée par notre grand DJ Pedro Fiasco.
Alors, on va s'écouter Startup National, tiens, de Gwendoline et C'est Politique, les vents passent.
Et on se retrouve juste après donc, pour la deuxième partie de cette mini-nale.
J'ai pas de boulot, je cherche même pas l'amour. Je vis de mon temps en LAN et en coop. Ouvre tes yeux et regarde-nous. Qu'est-ce que tu vois?
Lève-toi, va te coucher, fais du sport, puis va manger. Mais un deuxième réveil, rate le premier. Prends ta douche, va t'habiller. Ticket de bus, bonjour, au revoir, t'as pas le temps pour un regard. Croise plein de monde, mais reste seul.
S'il te plaît, raconte-le-moi. Une bande de schizophrènes, même pas diagnostiquée. Sans réfléchir, on veut faire bien devant les parents. Ça rêve d'argent et de bonheur et même d'enfants pour descendance.
Comme des pilules, fais pas la gueule. Prends l'autoroute, t'es déjà en retard. Crasse-toi la barbe et crève tes ch'tards. Joue avec des lames de rasoir. Pleure avec tes larmes de tocard.
Et puis on pleure comme pour remplacer les enfants qu'on n'aura jamais. Tes yeux tu les ouvres peut-être même juste quand tu t'endors. Au carole à jouer c'est toi la star connard. Ça sert à rien les défilés, tout le monde s'en branle. Faut juste le dire et le défendre. Plus rien à foutre de ma santé. Je mets mon avenir dans les mains de mon caviste.
Partous, général, génération géniale. Startup et open space, ouais, c'est super viral. Partous, général, génération géniale. Startup et open space, ouais, c'est super viral. Politique.